France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Jour historique au Proche-Orient, les 20 derniers otages israéliens ont été libérés ce matin, 2 ans et 6 jours après leur enlèvement. Nous écouterons leurs proches dans un instant, quand des centaines de prisonniers palestiniens, eux, sont en train d'être relâchés et que le président américain Donald Trump a été applaudi debout il y a quelques minutes par le Parlement israélien, avec à ses côtés le Premier ministre israélien qui lui parle de la paix.
A time for peace,
un temps pour la paix
and a time for war.
Et un temps pour la guerre.
The last 2 years have been a time
Les deux dernières années ont été le temps de la guerre. Les années qui viennent seront, je l'espère, les années de la paix.
Benjamin Netanyahou à la tribune à Jérusalem il y a quelques minutes. Nous serons à Jérusalem dans quelques minutes, mais nous serons aussi en direct de Tel Aviv, de Ramallah en Cisjordanie et de Sharm el-Sheikh en Égypte avant le sommet pour Gaza. Dispositif exceptionnel pour vous faire vivre ce moment. Et puis nous verrons aussi avec notre invité, médecin psychiatre, s'il sera possible de réparer les traumas des otages. À suivre encore l'actualité politique en France et les premières heures du gouvernement Le Cornu 2. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Et déjà 2 motions de censure de déposer.
Oui, ça n'a pas traîné, mais c'est aussi sans surprise 2 motions déposées par le RN et LFI. Elles devraient être examinées à l'Assemblée nationale mercredi ou jeudi.
A tout de suite pour vos explications. Et puis à partir de 13h30, à vous la parole. C'est notre journée spéciale. Je voudrais que vous nous expliquiez à l'antenne comment vous faites pour trouver des compromis au boulot, dans votre commune, dans votre association. Comment trouver des solutions ensemble? J'aimerais écouter vos exemples. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Aujourd'hui, c'est vous les invités. Nous parlerons également d'un prix Nobel d'économie et il est français, Philippe Aguillon. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. C'est Didi Bridgewater qui sera là pour nous demander Nina Simone.
J'allume la télévision et elle est arrivée avec ses cheveux naturels mais coiffée comme une reine africaine. J'étais scotché.
Ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Le 7 octobre 2023, les commandos du Hamas et de ses alliés laissaient derrière eux en Israël des centaines de cadavres. Ils emportaient 251 otages. Depuis, 150 avaient été libérés vivants dans des échanges avec des prisonniers palestiniens. Il en restait 20. Ils sont libres depuis ce matin. Parmi eux, Elkana Bobot. Sa tante Ruth Amiel est française. Elle a suivi sa libération à distance, à la télévision, depuis Jérusalem, où elle est entourée de sa famille.
La seule chose que j'ai ressentie dans l'immédiat, c'était un soulagement immense. Parce que j'y croyais pas jusqu'à ce matin. J'étais vraiment pas confiante. Mais quand finalement à 10h on a vu son visage, en fait le Hamas, il a laissé Elkana, mon neveu, parler de leur téléphone à eux, d'appeler sa maman. Donc on a vu cette image où il parle à sa maman par le téléphone du Hamas. Ah, c'était très émouvant et puis là c'était un vrai soulagement. J'ai hâte, mais nous on n'aura pas le droit de le voir avant demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est que sa femme et ses parents, ses frères. Et il faut qu'il fasse un check-up total dans un hôpital. Et si tout va bien, le reste de la famille pourra se joindre à lui demain. Franchement, on a pas vécu pendant 2 ans. On a essayé de survivre. Et là, on va pouvoir soupirer, dire « bon, ça y est, tout ça, c'est derrière nous. On va tourner la page, se reconstruire, le reconstruire à lui déjà, le rétablir et commencer notre vie. » Normal, comme avant.
Le témoignage de Ruth Amiel au téléphone d'Ajra Mohamed. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en direct de Jérusalem. Thibault, racontez-nous comment s'est déroulée cette libération, ces libérations.
Eh bien, 9h52, très exactement heure française. Après 738 jours de guerre, il n'y a plus d'otages israéliens vivants à Gaza. Jour historique pour l'État hébreu, avec donc cette libération en 2 temps. D'abord, 7 otages ce matin à 7h, et puis près de 3 heures plus tard, les 13 derniers sont relâchés. Que des hommes, jeunes pour la plupart, amaigris, pâles, mais souriants. Ils ont été pris en photo par l'armée avec leurs proche. D'abord, dans la base de Reim, c'est juste à côté de Gaza, du côté israélien, évidemment, où ils ont été soignés et alimentés. Puis dans les hélicoptères qui les ont emmenés dans un hôpital de Tel Aviv. C'est la troisième et donc dernière vague d'échanges d'otages et de prisonniers. Depuis le début de la guerre, il y a 2 ans, 2000 détenus palestiniens ont été libérés en fin de matinée. Et donc, l'opération est terminée, comme prévu, 72 heures après le cessez-le-feu. Alors, deux particularités ce matin, Jérôme. D'abord, la fluidité de cette opération. Pas de retard, pas de contestation, ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'a jamais été le cas, que ce soit en janvier 2024 ou en novembre 2023. Et puis, pas de mise en scène non plus du Hamas, comme l'avaient exigé les Israéliens. La guerre est donc terminée, disait Trump tout à l'heure. Pas les négociations, et notamment sur les dépouilles des 28 derniers otages que le Hamas doit restituer à l'État hébreu en échange de corps de Palestiniens.
Thibault Lefebvre, on va vous retrouver dans une minute pour parler précisément de Donald Trump qui est en ce moment même devant le Parlement israélien. Il y a été longuement applaudi. D'abord, je voudrais qu'on se rende place des otages à Tel Aviv où une foule compacte est rassemblée depuis tôt ce matin. Des Israéliens qui ont suivi en direct ces libérations. Récit sur place, Valérie Crova.
Les hélicoptères qui emmènent les anciens captifs du Hamas dans les hôpitaux de Tel Aviv survolent la place des otages sous un tonnerre d'applaudissements. Wilfried, enroulé dans un drapeau israélien, a participé à la liesse populaire. Il est là depuis 6 heures du matin.
On a versé des larmes de joie. C'est une victoire, je pense, pour le peuple israélien.
Une victoire, certes, mais au goût amer pour Anaël, maman de 4 fillettes qui l'accompagne ce matin.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des otages qui vont revenir malheureusement morts. Et on n'oublie pas aussi tous les gens qui sont tombés pour arriver à la libération de ces otages. Parce que nous, personnellement, on a un ami avec qui on a grandi de Marseille. Et dans chaque instant, je pense à lui.
Son mari, Sacha, voit dans cette journée une communion entre tous les Israéliens et au-delà.
Aujourd'hui, tout le monde est là. Tout le monde est là pour accueillir les otages, pour remercier nos soldats. Et c'est une émotion de savoir que le monde entier a travaillé à cette paix. Et on espère qu'elle sera pérenne dans le temps et que nous pourrons vivre enfin en étant acceptés par nos voisins.
Demain matin marquera l'anniversaire des 2 ans de l'attaque du 7 octobre, selon le calendrier religieux juif. Le fait que les otages aient été libérés la veille représente un symbole particulièrement fort. Ils pourront passer la fête de Simrat Torah en famille.
Valérie Crova à Tel Aviv avec les moyens techniques de Laurent Macchietti. Thibault Lefebvre, on vous retrouve en direct de Jérusalem. Donald Trump, le président américain, l'homme qui a arraché cet accord de cesser le feu la semaine dernière, est arrivé en Israël ce matin. Il est donc devant la Knesset. Il y a été longuement applaudi.
Oui, discours successifs. Alors d'abord de Benjamin Netanyahou, son discours, le discours du Premier ministre israélien s'est terminé il y a une dizaine de minutes et c'est actuellement son principal opposant Yair Lapid qui s'exprime et il est écouté religieusement par le président américain. Donald Trump est assis à la droite d'Amir Ohana. Amir Ohana, c'est le président de la Knesset. Lui ne s'est pas encore exprimé, donc Donald Trump, mais c'est Amir Ohana qui a d'abord, avant donc Benjamin Netanyahou et Yair Lapid, pris la parole pour rendre hommage aux otages et à leurs familles.
Mishpachot chatoufim, mishpachot shakulot.
Tonnerre d'applaudissements donc pour ces otages, leurs familles et puis l'homme du deal, Donald Trump, qui comme je vous le disais n'a pas encore parlé. Ça ne devrait pas tarder face à une audience conquise, euphorique même, des ministres du gouvernement Netanyahou portent la fameuse casquette rouge, vous savez, des supporters du président américain, avec le message suivant, Trump, the peace president, Trump, le président de la paix. Et puis vous dire enfin que pour le moment, il n'y aura pas de rencontre historique à Sharm el-Sheikh en Égypte cet après-midi entre Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Les deux hommes ne devaient pas à l'origine être présents hier. Ils ont finalement été invités à la dernière minute. Et puis finalement, Benjamin Netanyahou a décliné pour cause de fête juive. C'est en effet, Valérie Crova vous le disait, Simchat Torah, la fin de Soukhot ce soir. Un geste politique vraisemblablement à destination de sa droite religieuse la plus extrême, mais sans doute aussi un bon prétexte pour lui éviter, à lui, l'ennemi convaincu de la solution à deux États, une poignée de main gênante avec Mahmoud. Mahmoud Abbas.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Nous serons précisément à Sharm el-Cheikh en Égypte, où se trouve notamment Emmanuel Macron avec notre envoyé spécial dans un instant. Je voudrais qu'on se rende en Cisjordanie, puisqu'on a parlé de la joie à Tel Aviv et on l'a entendu il y a quelques minutes. Même joie à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien, puisque les otages israéliens qui ont été relâchés ce matin l'ont été en échange de la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens. Et notre envoyé spécial à Ramallah, Marie-Pierre Véro, a pu voir l'arrivée des premiers prisonniers palestiniens sur place.
Ils sont arrivés dans deux bus blancs de la Croix-Rouge, dans une cohue indescriptible, des cris de joie, des Allahu Akbar, des sifflets, des applaudissements. Les prisonniers descendent un par un. Beaucoup ont le visage émacié, certains pleurent, d'autres sourient. La plupart portent un keffieh autour du cou et l'on crie leur nom dès qu'on reconnaît les proches qui descendent. Ils sont ensuite conduits à l'intérieur du centre culturel de Ramallah où leur mère, leur sœur, leur père, leurs frères les attendent. Et là, vous l'imaginez, ce sont des pleurs, on s'embrasse. Les yeux embués de larmes, une jeune femme en robe traditionnelle embrasse son frère. C'est un sentiment indescriptible, dit-elle, un mélange de douleur, de tristesse, de joie. Je ne peux pas vous le décrire. Après plus de 24 ans, la vie revient, le soleil s'est levé de nouveau. Maintenant, le plus important, c'est sa santé. Nous voulons qu'il se marie et nous voulons voir ses enfants. Il y a donc beaucoup d'émotions. L'un des prisonniers a perdu connaissance. L'un d'eux tient tout de même à parler aux caméras pour s'indigner de l'interdiction qui a été faite par l'armée israélienne de toute célébration. Ils ont tout fait, dit-il, pour nous enlever notre joie. Mais nous sommes libres et avec nos familles, des familles qui effectivement ont reçu hier des menaces leur disant qu'elles ne devraient pas célébrer le retour de leurs proches, sinon ils pourraient être arrêtés de nouveau.
Reportage à Ramallah, en Cisjordanie, de notre envoyé spécial Marie-Pierre Véro, avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. Alors le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais aussi le président américain Donald Trump vont dans les prochaines minutes prendre la direction de l'Égypte, au sud d'Israël, la station balnéaire de Sharm el-Cheikh, où doit se tenir cet après-midi un sommet sur l'avenir de Gaza en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. Une photo historique se dessine, même si in fine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne sera pas là.
Oui, ici l'espoir aura tenu une petite heure à peine, celui d'une photo qu'on annonçait historique entre Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas. Ces deux-là ne se sont pas serrés la main depuis 9 ans, mais au dernier moment, le Premier ministre israélien a préféré annuler sa venue ici, sur les bords de la mer Rouge, invoquant une fête juive. À vrai dire, on ignore encore les véritables raisons qu'on devine politiques et diplomatiques de ce revirement de dernière minute. Mais même sans Benjamin Netanyahou, Mahmoud Abbas, lui, sera bien là et c'est déjà un grand pas. Mettre Trump et Abbas dans la même pièce, c'est énorme et inespéré, confie ce matin une source diplomatique française.
Le président français Emmanuel Macron est là lui aussi. Il va tenter de s'inscrire dans une histoire qui, jusqu'ici Julien, s'écrit sans les Européens.
Oui, le président de la République le sait bien. Son rôle, comme celui des Européens, est plus marginal dans ces négociations de paix pour Gaza, mais il en est persuadé. Son initiative le mois dernier pour reconnaître un État palestinien a créé une dynamique dont s'est servi Donald Trump pour présenter son plan de paix. À sa sortie d'avion ce matin, le chef de l'État a rappelé ce qu'il attend de ce sommet égyptien.
La priorité, c'est évidemment la reprise des opérations humanitaires à Gaza dès les prochaines heures. Ensuite, la deuxième chose, c'est la sécurité dans la durée. Et donc on va œuvrer avec les États-Unis d'Amérique, avec les pays de la région, à ce qu'il y ait ce cadre qui permet une force internationale de stabilisation.
Reste à savoir si des troupes françaises pourraient, oui ou non, participer à cette force internationale de stabilisation évoquée par le président. Emmanuel Macron sera de retour à Paris la nuit prochaine, prêt à replonger dans une autre crise politique, celle-là. En France.
Julien Nenni à Sharm el-Cheikh pour Inter. La paix est donc à écrire, mais il y a aussi des vies à reconstruire, celles des otages qui ont été libérés ce matin. Bonjour Didier Kremniter.
Bonjour.
Vous êtes médecin psychiatre, vous avez été médecin référent des cellules d'urgence médico-psychologiques en France. Quelles sont les premières choses à faire quand on accueille de tels otages qui sont restés retenus, détenus pendant plus de 2 ans?
Eh bien, il faut apprécier dès que possible, dans un lien d'entente et de protection, essayer d'apprécier quelle est leur souffrance, En sachant que, bien sûr, elle peut être tout à fait masquée par l'euphorie de la libération. Mais je pense que par rapport à cela, il faut quand même s'enquérir de ce qu'ont subi ces otages durant leur détention, la durée, l'éventualité de ces vices importants. Et à partir de là, se préparer à la possibilité, dans certaines situations, que des difficultés puissent se produire, soit dans l'immédiat, soit ultérieurement. Et donc, mettre en place une capacité à répondre à ces éventuelles difficultés.
Ça veut dire des entretiens assez rapidement, juste après les premiers échanges avec les proches, avec les familles ?
Tout à fait. Alors, effectivement, les entretiens, c'est l'arme absolue, enfin la méthode la plus appropriée, à condition de le faire si bien sûr c'est vécu de façon très positive par la personne libérée, par l'otage, par l'ex-otage, si vous voulez. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas renoncer pour cela à l'aider, peut-être en s'appuyant d'abord sur l'entourage qui pourra apporter beaucoup d'éléments importants.
Quel type de traumatismes sont perceptibles chez ce type de personnes qui ont été otages, Didier Kremniter ?
Ce sont des traumatismes tout à fait typiques, traumatismes aigus. D'ailleurs, chez les otages, on décrit très clairement la phase de capture qui est déjà un choc qui peut provoquer des symptômes aigus, comme de la stupeur, de l'angoisse massive, etc. Bon, là, on est dans une prise d'otage prolongée sur des années. Enfin, presque de
plus de deux ans.
Oui, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la phase d'installation et de chronicité, avec des phases parfois d'espoir, mais aussi des phases de déchéance et d'enfermement, si vous voulez, dans une dans une souffrance de qui est quasiment mélancolique, avec un retrait de la vie. L'essentiel, si vous voulez, dans les otages, étant que le sujet est relégué vraiment à l'état d'objet, au prix, il devient essentiellement une monnaie d'échange. C'est ça l'os de la chose, si je puis dire.
Il est déshumanisé.
Absolument, oui. Alors, il faut apprécier évidemment l'importance, comment le sujet, à partir de là, va réagir, comment est-ce qu'il a pu surmonter cela. On voit des exemples qui peuvent différer de façon parfois importante d'une personne à l'autre.
Le médecin psychiatre Didier Kremniter, interview enregistrée il y a quelques minutes, alors que le président américain Donald Trump est en train de s'exprimer devant les députés israéliens après le cessez-le-feu à Gaza et après la libération ce matin des 20 derniers otages israéliens. Je vous propose de l'écouter.
Deux années épouvantables, deux années d'obscurité et de captivité, à l'issue desquelles 20 otages rentrent dans leur famille qui les aime, des proches qui peuvent accueillir les otages et célébrer leur retour sur leur terre sacrée. Aujourd'hui, les sirènes se taisent, les fusils se taisent et le soleil se lève sur une terre sacrée et une région qui, avec l'aide de Dieu, vivra en paix pour l'éternité.
Extrait du discours que Donald Trump est en train de prononcer devant la Knesset à Jérusalem.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
L'autre grand titre de l'actualité de ce lundi, ce sont les premiers pas du gouvernement Le Cornu 2 qui va tenter de passer la semaine. Les nominations sont intervenues hier soir. Certains étaient de Le Cornu 1, Gérald Darmanin à la justice, Rachida Dati à la culture, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères, Roland Lescure à l'économie. Il y a ceux qui changent de poste comme Catherine Vautrin qui arrive aux armées. Et puis il y a les nouveaux. Jean-Pierre Farandou, l'ex-patron de la SNCF, arrive au travail quand l'ancien patron du groupe Système U, Serge Papin, est nommé nommé ministre des PME, du commerce et du tourisme. Le Premier ministre avait expressément demandé que les passations de pouvoir du matin aient lieu sans micro ni caméra, mais il y a un ministre qui a décidé de désobéir, c'est celui de l'Intérieur qui est démissionnaire, c'est Bruno Retailleau. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous êtes au ministère de l'Intérieur, vous l'avez écouté, Bruno Retailleau vient de faire ses adieux, est-ce qu'il a réglé ses comptes ?
Alors, très subtilement, déjà en bravant l'interdit avec cette cérémonie non protocolaire, d'ailleurs Bruno Retailleau l'a souligné dès le début de son discours devant ses équipes, qui sont en ce moment même en train de trinquer avec lui devant moi dans cette salle de réception, Place Beauvau.
Mes amis, je n'allais pas partir comme un voleur. Et je voudrais vous dire ceci. Avoir été pendant ces 12 mois votre chef aura été le plus grand honneur de toute ma vie.
Bruno Retailleau assure qu'il repart aussi librement qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur et vante son bilan, loi narcotrafic, baisse des naturalisations ou encore hausse des expulsions d'étrangers sans papier.
J'étais parfaitement conscient de la difficulté de l'exercice. Avec une majorité introuvable à l'Assemblée nationale et avec vous, dans le quotidien, nous avons passé 12 mois à lutter pied à pied.
Le désormais ex-ministre de l'Intérieur se targue d'avoir bougé les lignes dans le débat public. Il passe maintenant le relais à son successeur, un homme remarquable, dit-il. Mais Laurent Nunez n'était donc pas là pour entendre le compliment lors de cette passation de pouvoir officieuse. Et pour conclure, Bruno Retailleau exprime son émotion et sa gratitude. Le mot est important.
La gratitude, c'est un sentiment désuet. Encore plus désuet dans le monde politique. Parce que les femmes et les hommes politiques se targuent bien souvent de s'être fait seuls.
Un tacle à peine voilé aux six ministres LR, ou plutôt ex-LR, puisqu'ils ont été exclus du parti après avoir accepté d'entrer au gouvernement. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, lui, va retrouver son siège au Sénat dans un mois.
Sonia Gobry en direct du ministère de l'Intérieur. 130 ministres, nos collègues de l'agence France Presse ont fait leur compte, 130 ministres depuis 2022. Et il y en a donc des nouveaux. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Puisque le reproche qui avait été fait au Le Cornu 1, c'était le manque de renouvellement. Alors là, il y a du changement, mais certains ont aussi sauvé leur peau. Est-ce qu'on a un début d'explication ?
En tout cas, il y a d'abord des surprises. Sébastien Lecornu voulait purger son nouveau gouvernement des appétits partisans et de tous ceux qui lorgnent sur 2027. Et pourtant, Gérald Darmanin reste place Vendôme. Il est vrai, il est un ami proche de Sébastien Lecornu. Pour justifier le fait d'être ainsi prolongé, il a promis de mettre entre parenthèses ses activités partisanes. Mais qui peut le croire ? La présidentielle est dans 18 mois. À la culture, Rachida Dati aussi est maintenue. Étonnant, commente un ex-conseiller de l'exécutif. Le moment eût été idéal pour la faire partir. Oui, mais elle fait peur à tout le monde, s'amuse un cadre du camp présidentiel. Il y a ensuite les sortants. À la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher ne voulait pas rempiler. Elle a préparé sa sortie depuis la semaine dernière. « Je ne pense pas, disait-elle, que renommer Sébastien Lecornu serait une bonne idée. Son sort était scellé. » Elisabeth Borne non plus n'est pas reconduite. Chez Renaissance, certains imaginent qu'elle a payé sa sortie en solitaire sur les retraites. Quant à Manuel Valls, lui aussi est remercié, ce n'était pas son choix. Sébastien Lecornu ne l'aimait pas, croit savoir un fin connaisseur du dossier calédonien. Il a porté l'accord de Bougival et s'est imposé sur les Outre-mer, périmètre traditionnellement rattaché à Matignon. Enfin, dans ce gouvernement, six ministres LR, dont trois nouveaux arrivants. Une façon de tenter d'isoler Bruno Retailleau et d'appuyer sur les divisions à droite.
Décryptage signé Marie Mollet. Alors, projetons-nous sur les jours à venir. Deux motions de censure ont d'ores et déjà été déposées. L'une par le Rassemblement National et son allié l'UDR. L'autre par la France Insoumise. Son leader Jean-Luc Mélenchon a ce matin, sur Inter, résumé sa position en une phrase.
Nous ne sommes pas élus pour nous entendre. Nous sommes élus pour appliquer ce que nos électeurs nous ont demandé de faire. Eh bien, je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans.
Pourquoi
et
vous
donc,
dites ça,
les socialistes voteront la censure comme nous et comme alors, la majorité alors, de l'Assemblée. Alors,
nous ne sommes pas élus pour nous entendre, mais pour appliquer ce que les électeurs nous ont demandé de faire. Jean-Luc Mélenchon avec Nicolas Demorand et Benjamin Duhamel. Jérôme Val, on vous retrouve, bon tout va se jouer cette semaine. Première étape pour Sébastien Lecornu, il réunit ses ministres cet après-midi.
Oui, tout va aller très vite. Hein. Maintenant, l'ensemble du gouvernement est convié à Matignon à 14h30 autour de Sébastien Lecornu, avec un cap fixé depuis plusieurs jours désormais par le Premier ministre, donner un budget à la France d'ici la fin de l'année, et l'objectif d'un déficit en dessous des 5% du PIB, comme le confirme ce matin l'une des nouvelles ministres. Deux textes seront présentés ensuite en Conseil des ministres demain matin à l'Élysée, un sur le budget, l'autre sur celui de la sécurité sociale. social. Et dans l'après-midi, eh bien là, c'est un autre moment clé. Sébastien Lecornu défendra sa politique lors de sa déclaration de politique générale devant les députés.
Les oppositions, elles, sont déjà en embuscade.
Oui, vous l'avez rappelé, hein, deux motions de censure déjà déposées, celle du Rassemblement national et de l'UDR qui en appellent à un retour au peuple pour sortir de ces multiples crises, et celle de la France insoumise qui qualifie Sébastien Lecornu de Premier ministre illégitime. Elle a été signée ce matin par les 71 députés LFI ainsi que 10 députés communistes et 6 du groupe écologiste et social. Alors avec quelle chance d'aller jusqu'au bout, si on additionne tous les signataires de ces deux textes, on arrive à un total de 235 voix. Il en manque 54 pour faire tomber le gouvernement, c'est-à-dire moins que le groupe socialiste, prêt lui aussi à déposer sa propre motion si demain après-midi la suspension immédiate de la réforme des retraites n'était pas évoquée par Sébastien Lecornu dans son discours.
Donc tout va se jouer demain après-midi dans le discours
de
politique générale prononcé par Sébastien Lecornu. On suivra ça évidemment avec la plus grande attention. Et je vous rappelle, vous pouvez être avec nous dans les prochaines minutes. À vous la parole, vos solutions de compromis dans vos associations, au boulot, dans vos communes également. 01 45 24 7000, vous êtes nos invités. Et dans le contexte actuel, la France est pointée du doigt comme le mauvais élève en matière financière et économique. Voilà une nouvelle qui ne manque pas de sel. C'est un Français qui a reçu ce matin le prix Nobel d'économie aux côtés d'un américano-israélien et d'un Canadien qui ont travaillé avec lui. C'est Philippe Aguillon, que l'on entend régulièrement d'ailleurs sur cette antenne. Bonjour Mathilde Hémy.
Bonjour Jérôme.
Philippe Aguillon, récompensé pour ses travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.
Oui, Philippe Aguillon qui préfère toujours regarder le verre à moitié plein, l'éducation, l'innovation, qu'à moitié vide, le déclin de l'Europe. Il a toujours poussé Emmanuel Macron notamment à porter des politiques ambitieuses pour aider les jeunes talents. De là à décrocher à 69 ans le prix Nobel, il en est le premier interloqué.
C'est une grande surprise, je suis sans voix, c'est vraiment une belle surprise, je ne m'y attendais pas du tout.
Philippe Aguillon et son collègue Peter Howitt, nobelisés pour avoir créé un modèle mathématique autour de la notion de destruction créatrice. La concurrence est une bonne chose, pousse à développer de nouveaux produits. Il faut donc en permanence miser sur cette innovation, explique Philippe Aguillon au comité Nobel.
Quand vous avez une révolution comme l'intelligence artificielle, ça crée une peur d'augmenter le chômage. Car c'est vrai que les machines remplacent l'homme. Mais d'un autre côté, ça vous autorise à être plus productif. Et donc, ça développe la demande sur le marché mondial. Et ça vous permet de créer de l'emploi.
Philippe Aguillon se lance alors dans une longue défense de l'Europe, inventive, pointue en matière de recherche, mais qui peine ensuite à se lancer, à passer le stade de la production, alors que les États-Unis imposent désormais des barrières douanières.
Je ne salue pas la vague de protectionnisme aux États-Unis. Ce n'est pas bon pour notre croissance et notre innovation. Mais d'un autre côté, regardons le bon côté des choses. Je pense que les pays européens doivent réaliser que nous ne pouvons pas laisser plus longtemps la Chine et les États-Unis rester les leaders en matière de technologie.
Philippe Aguillon travaille en France. Il s'implique beaucoup dans nos débats économiques. Et il s'est notamment opposé récemment à la taxation des plus grosses fortunes via la taxe Zuckerman.
Et il parle français, mais là, il s'exprimait en anglais devant le comité Nobel. J'ajoute, merci Mathilde Hémy, qu'Emmanuel Macron salue à l'instant la fierté française après ce prix Nobel d'économie. Très vive émotion ce matin en Moselle. À Sarreguemines, les cours ont repris à l'école Montagne supérieure de la ville. Une cellule d'écoute y a été mise en place par le rectorat. Après la mort d'une élève de CM2 samedi, elle avait 9 ans, elle a été trouvée sans vie chez elle par ses parents. Le parquet de Sarreguemines privilégie la piste du suicide. Fanette Hourte était sur place ce matin.
Des enfants qui tombent dans les bras de leurs parents ce midi à la sortie de l'école. Beaucoup de tristesse, d'incompréhension, de peur, mais aussi de la colère. Certains pointent l'inaction de la direction et accusent les enseignants de ne pas avoir vu la détresse de cette jeune fille. Et c'est pourquoi d'ailleurs le syndicat des professeurs des écoles, SNUDIFO, demande la protection fonctionnelle pour les enseignants de cet établissement. Le recteur de l'académie Nancy Metz est sur place pour apporter son soutien. Il a rencontré les parents de la jeune fille ce matin et il assure que tout est fait pour essayer de comprendre s'il y a un lien entre son geste et ce qu'elle vivait à l'école. La jeune fille avait laissé une note d'adieu à ses parents et selon le parquet de Sarreguemines, ses parents ont évoqué, je cite, « des difficultés relationnelles ».
Fannette Hurt de nos confrères d'ici Lorraine. Le message ce matin du Premier ministre Sébastien Lecornu à l'occasion de l'hommage à Dominique Bernard, professeur assassiné il y a 2 ans, jour pour jour, par l'un de ses anciens élèves. C'était devant la cité scolaire d'Arras le 13 octobre 2023. Nous n'oublierons jamais son courage, son engagement et son humanité, écrit le Premier ministre sur le réseau social X, alors qu'un hommage, une minute de silence est prévu demain matin dans les établissements scolaires du pays à partir de 10h. De plus en plus de Français sont bloqués avec leur démarche en ligne et près d'un quart abandonne. C'est ce que nous apprend aujourd'hui une enquête de la Défenseure des droits. Bonjour Fanny Humbert.
Bonjour Jérôme.
Ça concerne le permis de conduire en ligne, des attestations que vous pouvez demander à une administration, ou plus important, la demande d'une allocation. Ce sont des démarches qui deviennent une vraie galère pour 6 personnes sur 10.
Oui, et c'est un phénomène en hausse et qui concerne toutes les catégories sociales, les plus diplômées, mais aussi les plus jeunes, qui sont pourtant à l'aise avec les écrans. C'est ce qu'observe au quotidien le Secours Populaire, qui organise des ateliers d'aide numérique et qui voit arriver de plus en plus de jeunes, raconte Henriette Stenberg, la secrétaire générale.
Si jeunes soient-ils et si rapides soient-ils sur leur smartphone, ils ne font pas le lien avec le besoin qu'ils ont à remplir. Ils cherchent une personne. Ça touche toutes les personnes qui ne sont pas familières avec cet usage-là. Si on rentre pas le bon code et si on n'a pas bien compris où il faut mettre la croix, eh bien, on perd ses droits et on comprend même pas ce qui se passe.
En 8 ans depuis la dernière enquête sur le sujet, la part des répondants qui rencontrent des difficultés a bondi de 22 points, passant de 39 à 61% et un quart disent renoncer à leurs droits. La difficulté à contacter quelqu'un, le manque d'informations, les demandes répétées de pièces justificatives sont les principales raisons. L'enquête conclut à un accroissement de l'inégalité d'accès aux services publics. Alors il existe bien ce fameux guichet France Service, si vous voulez vous adresser à un conseiller, vous pouvez aussi vous tourner vers des associations. Et le dernier recours, c'est de contacter la Défenseure des droits avec un réseau de délégués dans tous les départements qui vous reçoivent gratuitement et sur rendez-vous.
La Défenseure des droits, Claire, et donc qui sera ce soir, je crois, Fanny Humbert, l'invitée du journal de 18h sur Inter. Parlons maintenant d'une découverte ô combien surprenante. Ça se passe à Lille. L'association La Cravate Solidaire y accompagne des personnes qui sont en recherche d'emploi et pour préparer les entretiens d'embauche, par exemple. Il arrive à cette association d'offrir pour quelques minutes des vêtements et par exemple des vestes. C'est mieux de passer peut-être un entretien d'embauche avec une veste. Voilà le cadre dans lequel les bénévoles de cette association ont fait cette découverte. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour Jérôme.
Dans la poche de l'une de ces vestes, un agenda de l'année 1940. Il appartenait à Émilienne, habitante de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais.
Ouais, c'est lors d'une session de tri des vêtements donnés par des particuliers qu'un bénévole fait la découverte sous les yeux de Léa, chargée de mission à la Cravate Solidaire.
Quand c'est comme ça, on vide toujours les poches, on vérifie ce qu'il y a à l'intérieur et puis par pur hasard, un bénévole a trouvé un tout petit carnet. Et en fait, on a découvert que c'était un agenda d'une dame pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un agenda de 1940, Émilienne, la vingtaine, y consigne sa vie au jour le jour d'une toute petite écriture serrée pour pouvoir noter le plus de choses possible sur ce tout petit carnet qui est désormais entre les mains de son petit-fils, Mathieu.
L'arrivée des Allemands en France, l'arrivée des Allemands à Boulogne, le nom des rues bombardées, le rationnement, et puis des commentaires « enfin du beurre, enfin des œufs », le fait que mon grand-père soit prisonnier, elle pleurait, et mon arrière-grand-père lui a dit « arrête de pleurer, ressaisis-toi parce qu'on est encore en vie ». Quoi.
Une mentalité encore très présente dans la famille, Mathieu l'avoue, il a rarement parlé de la guerre avec sa grand-mère.
On est construit par nos difficultés, mais on va de l'avant, on regarde pas en arrière et on discute. Mais comme il y avait beaucoup de choses négatives, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, une mamie est précieuse pour un petit-fils. Donc, on essayait de trouver des choses toujours positives et on n'en parlait pas beaucoup.
Mais cette trouvaille lui permet de plonger avec beaucoup d'émotion dans le quotidien de sa grand-mère pendant cette année 1940.
Merci Clémentine Sabrier. 13h32 sur Inter. À suivre dans une deuxième demi-heure un peu raccourcie aujourd'hui compte tenu de la riche actualité de ce lundi. Notre journée spéciale, vous allez prendre la parole. Dans quelques minutes, venez nous raconter comment vous parvenez à dépasser les divergences. Ce qu'on n'arrive pas à faire au niveau national, vous arrivez sans doute à le faire au niveau local, au boulot, dans votre commune, dans votre association. Comment vous trouvez des compromis, des solutions quand au départ tout le monde n'est pas d'accord? Venez nous donner vos exemples. 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France. Dans un instant, la météo de votre lundi, ce sera avec Élodie Calac. Et puis c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Jérôme.
Et une chanteuse avec vous. Ouf.
Une grande chanteuse de jazz, Didi Bridgewater. Elle sera sur scène dans deux festivals cette semaine. Et avec elle, c'est la voix de Nina Simone que nous écouterons.
Merci Frédéric, à tout à l'heure.
France Inter présente
le podcast L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise.
Thomas Negaroff.
Alors que l'Élysée est sous pression, retour sur ces moments de la Ve République où le sommet de l'État a vacillé, douté et menacé d'exploser. Quelle leçon pour aujourd'hui ?
En 6 dates clés.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Jean Garrigue.
L'Élysée dans la tourmente, anatomie d'un exécutif en crise.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Surprise ! Je t'ai préparé le petit filet de saumon que t'adores.
T'es trop chou, mais je vais plutôt prendre une fondue.
Mais on est rentré, c'est fini, Bel Embras.
On s'habitue vite au choix chez Bel Embras. Spécialité montagnarde, buffet varié, notre offre de restauration ne s'arrête jamais. Et en ce moment, le ski jusqu'à moins 20% sur belembras.fr. Bel Embras Club, au plus vrai des vacances. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Leg Assurance Vie sur leg.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée agréable, mais il y a encore des nuages tenaces.
Oui, beaucoup de soleil avec quelques bémols en effet. Alors ça reste très encombré, hein, des frontières du nord vers l'Île-de-France et la Normandie. Du nord de l'Auvergne vers le Lyonnais et le Val-de-Saône, la grisaille résiste. Sur le sud des Alpes et la montagne corse, une averse est possible sous les nuages les plus joufflus cet après-midi. Et c'est plus menaçant sur les Pyrénées avec des averses parfois orageuses qui vont déborder ce soir vers le Roussillon et l'Aude. On n'oublie pas le vent, un vent de nord-est sensible sur la moitié nord. Côté thermomètre, un peu comme hier, c'est doux avec 16 à 22 degrés le plus souvent, un cran au-dessus de l'Aquitaine à la Méditerranée avec 23 à 26 degrés, et puis demain, peu de changements, du soleil mais des grisailles parfois tenaces à nouveau, un risque d'averses sur le Languedoc-Roussillon et des averses orageuses pour l'est de la Corse.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
À vous la parole, c'est le thème de cette journée sur Inter alors que notre pays traverse une crise politique majeure. Prenez la parole, appelez-nous 01 45 24 7000, vous pouvez aussi le faire via l'application Radio France. Et je voudrais dans les prochaines minutes qu'on se demande comment parvenir à prendre des décisions ensemble. Voilà des mois que les responsables politiques en sont incapables et pourtant, malgré les divisions qui existent entre les Français, qui peut les nier ? Tous les jours, des Français se concertent, prennent des décisions ensemble, arrivent à se mettre d'accord, à surmonter leurs oppositions. Ça se passe dans les entreprises, dans les communes, dans les associations, dans les copropriétés également, sans quoi tout le pays serait parfaitement bloqué et ça n'est pas le cas. J'aimerais que vous veniez nous raconter comment vous avez à un moment réussi en groupe à surmonter des divisions, des divergences. Comment avez-vous fait et qu'en avez-vous retiré ? Est-ce qu'il y a une méthode, par exemple, encore une fois 01 45 24 7000 ? Je compte sur vous. Claire nous appelle de Pau. Bonjour Claire.
Bonjour.
Nous vous écoutons. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel milieu vous travaillez et quelle difficulté s'est présentée devant vous ?
Oui, alors c'était quand j'étais responsable d'un service social où il y avait plusieurs utilisateurs, plusieurs travailleurs sociaux qui partageaient des véhicules de service. Et au bout d'un moment, c'était un irritant qui revenait régulièrement, qui était sous-jacent dans les conflits entre collègues. Et du coup, il y avait voilà, une ambiance qui n'était pas au top. Donc, à un moment donné, j'ai été voir un petit peu se rappeler le règlement intérieur de l'utilisation des véhicules de service. Pour cela, je voulais dire que c'était important de remettre le cadre de la discussion, évidemment, entre collègues et aussi de s'appuyer sur ce qu'il existait au niveau de l'administration. Donc, il y avait déjà tout qui avait été écrit. Il suffisait juste de se rappeler quelques règles et surtout d'avoir envie de partager un objet commun. Et de faire l'effort aussi de savoir jusqu'où on pouvait aller, quelle était la liberté de chacun dans l'usage, mais aussi l'obligation de rendre un objet en état de propreté, de bonne conduite. Etc.
Mais ça veut dire, Claire, qu'il vous a fallu définir, vous avez parlé d'un objet commun. C'est quoi cet objet commun ? C'est quelque chose que vous aviez tous en commun, vous et vos collègues, c'est ça ?
C'est ça, c'était les véhicules de service. Donc, ce sont des objets qui appartiennent à tout le monde et à personne, mais dont il faut prendre soin si on veut continuer à en avoir et que ça puisse rouler au moment où on en a besoin. Donc, il s'est agi plutôt de réunir les personnes concernées. J'avais fait le choix de ne pas associer à la discussion tout de suite les personnes non directement concernées. On a fait ce travail d'inventaire ensemble. On a distribué la parole. Ça a été un cadre très très formel hein, sur du temps de travail. Et ensuite, on a fait le retour au niveau de l'ensemble du service.
Et c'était réglé.
Et surtout, on s'est donné une échéance. On s'est dit, bon, on teste les engagements qu'on a pris les uns et les autres. Et donc, 3 mois après, on a refait un point et ça a été plié en 10 minutes parce qu'il n'y avait plus rien à dire.
Alors, Moi, j'ai réussi à trouver une solution avec des gens qui, peut-être, au départ, n'étaient pas du tout d'accord avec ce que vous leur demandiez. Est-ce que vous dites, mais bon sang, pourquoi ça n'est pas possible à une autre échelle ?
Ben, je pense que d'abord, il faut se mettre d'accord sur un cadre. Notre cadre, c'est la démocratie. Si à un moment donné, des gens veulent, par la force ou par tout autre moyen de pression, soumettre les autres, ça ne marchera pas. Donc, pour l'instant, on a un cadre, c'est la démocratie, on a des élections, on a de l'alternance. Si à un moment donné, certains veulent soumettre les autres par la force, je pense que ça ne marchera pas, effectivement.
Merci Claire pour votre témoignage. 01 45 24 7000 pour être avec nous. Parmi ceux qui ont lancé ces derniers jours des appels au compromis, il y a Christophe Bouillon. Bonjour Monsieur Bouillon.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association des petites villes de France. Vous avez adressé la semaine dernière une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle vous demandiez un sursaut de lucidité pour un devoir de compromis. Comment est-ce que vous fonctionnez dans les petites villes de France ? Il a dû vous arriver en tant que maire, Christophe Bouillon, de prendre des décisions alors que peut-être certains autour de la table n'étaient pas d'accord. Comment est-ce que vous êtes arrivé à un compromis ? Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ?
Alors c'est vrai que la culture du compromis, c'est une question de choix et de nécessité hein, dans les petites villes. Le choix, il existe dès le début. Vous savez, quand vous composez une liste, vous prenez des gens d'horizons différents et puis vous bâtissez un projet qui est le fruit d'un compromis. Donc c'est déjà la base, si j'ai envie de dire, d'un mandat pour des élus municipaux. Puis c'est une question de nécessité parce que vous savez, nous, on n'a pas de 49-3, c'est-à-dire qu'on doit faire avec. Et quand vous avez en effet des désaccords, ils peuvent exister, hein, quand vous avez des personnes différentes qui se retrouvent autour de la table du conseil municipal, forcément, il y a de la discussion, il y a de la délibération. Après, il y a aussi...
Mais si vous avez la majorité, vous pouvez faire passer votre texte, au fond.
Oui, mais le passage en force, ça ne marche pas.
Pourquoi ça ne marche pas ?
D'abord parce qu'il y a la proximité. Vous savez, on a cette proximité avec les habitants dans les petites villes, dans les communes, qui fait que très vite, vous avez le retour de bâton d'une certaine manière. Donc vous êtes obligé de composer. Et puis surtout, de plus en plus dans nos communes, il y a une culture intercommunale. Vous savez, le regroupement de communes qui fait qu'on se retrouve aussi avec des maires d'horizons différents et on est habitué sur des sujets très concrets à bâtir des compromis. Puis de plus en plus, on fait ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on fait des essais. On essaye pendant plusieurs mois, par exemple, changement d'un sens de circulation, la mise en place d'un nouveau système de ramassage des déchets, un nouveau sens d'aménagement pour réduire la vitesse. Bref, on fait des essais et au bout d'un moment, on s'aperçoit ou pas si ça convient à la majorité des personnes, mais jamais de passage en force. Et de plus en plus d'élus sont habitués à ce principe d'expérimentation qui va plutôt dans le bon sens. Et puis, à un moment ou à un autre, il ne faut pas hésiter. Ça devient une habitude dans beaucoup de collectivités, même les plus petites, à faire de temps en temps des votations citoyennes, c'est-à-dire de départager...
Revenir vers les citoyens.
Oui, pas simplement avoir un chèque en blanc du début de mandat jusqu'à la fin. On l'a fait, par exemple, dans ma commune à Barentin, sur un projet de reconversion d'une friche de 17 hectares. Et ce qu'on a fait, on a pris un peu plus de temps, et c'est du temps qui fait gagner du temps par derrière. On a concerté, on a créé des ateliers, on a fait travailler beaucoup d'habitants pour leur demander, au final, de choisir entre deux projets en venant voter.
Est-ce que cette méthode locale, Christophe Bouillon, vous qui avez écrit au président de la République avec l'Association des petites villes de France, elle vous paraît transposable au plan national ?
Le bon sens, il est transposable. La lucidité est transposable. Le fait de se mettre d'accord sur quelques sujets, le fait aussi, pourquoi pas, de faire de l'expérimentation. Le Parlement a déjà fait de l'expérimentation, par exemple, sur les territoires zéro chômeur. Et quand l'expérimentation fonctionne, c'est là où on peut généraliser. Donc,
y compris dans une Assemblée nationale où on va de la France insoumise à l'extrême gauche jusqu'au Rassemblement national à l'extrême droite.
Vous savez, dans les conseils municipaux, vous avez des élus qui sont de convictions politiques complètement différentes. Simplement, ils savent, à un moment ou à un autre, mettre au vestiaire ces convictions pour essayer de dégager des sujets d'intérêt généraux. Après, quand on regarde concrètement ce qu'on vote, ce qu'on décide, on est dans la vie de tous les jours. Et là, il n'y a pas besoin de plaquer sur tous les sujets des considérations idéologiques.
Merci Christophe Bouillon d'avoir été avec nous, président de l'Association des Petites Villes de France. Bruno nous appelle du Pays Basque, 01 45 24 7000. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Une décision prise par compromis dans votre commune, c'est ça ?
Oui, je disais à votre collègue au Standard, dans les petites communes de province, notamment ici dans le Sud-Ouest, on a des tas de compromis qui s'installent au-delà de nos couleurs politiques. On a une petite commune ici qui est sans étiquette, mais vous pensez bien que sur les élections, tout le panel est représenté de LFI extrême droite. Mais là, cet été, par exemple, on a résolu ensemble, entre riverains, des soucis de gestion des flux touristiques en période estivale. Parce qu'on a des ruisseaux avec des eaux très pures, et les gens... Alors, ce n'est pas ni votre faute, ni la faute du monsieur d'avant, ni rien. C'est la masse qui fait petits ruisseaux.
Beaucoup de touristes l'été au Pays Basque, il faut gérer les flux.
Voilà. Eh bien, nous ici, je vais faire court, mais on est en fait une petite commune où il y a un tiers d'agriculteurs, un tiers de néo-ruraux et avec des retraités, et un tiers d'artisans et petites et moyennes entreprises. On s'entend tous très bien parce qu'on procède... Demain, au-delà des préoccupations politiques de nos dirigeants, qui sont essentiellement animés par leur mandat électoral, les élections, etc., nous, on a la vraie vie. Et on est animés, vous savez quoi ? Par le travail. Et ici, c'est un coup de main, qui a besoin de cours de français pour passer dans la classe supérieure, contre le collègue qui...
On a du mal à vous joindre, Bruno, mais on a compris votre message. Merci infiniment de nous avoir appelés aujourd'hui. 01 45 24 7000. Bonjour Boris Ravignon.
Bonjour.
Maire LR de Charleville-Mézières. Ce qu'on entend là depuis 20 minutes, ils vous parlent, ces discours-là, et est-ce qu'ils sont transposables au fond ? Il y a beaucoup de Français de bonne volonté.
Moi, je crois qu'effectivement, la démarche de compromis, c'est transposable à toutes les situations. Christophe Bouillon l'expliquait à l'instant. Au niveau communal, on a, notamment parce qu'il y a un scrutin qui donne un avantage très, très important dans le nombre de conseillers à la liste qui arrive en tête, on a des majorités qui sont généralement complètement suffisantes. Et parfois, il faut faire appel à la population, des référendums locaux, des choses comme ça. Mais on a des majorités, normalement, dans les communes pour faire voter les projets et pouvoir les mettre en œuvre. En revanche, au niveau intercommunal, là, moi, mon conseil communautaire, Dardenne Métropole, c'est 57 communes, 105 délégués. Et donc,
pas tous de la même couleur politique.
Et non, forcément. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour essayer de faire du consensus ? On s'y prend d'abord par la construction d'un exécutif qui reflète finalement ces différentes nuances. Moi, je suis effectivement le président, alors je suis plutôt à droite. Mon premier vice-président, c'est le maire de Sedan, qui est plutôt à gauche. Et puis, on a ainsi, comme ça, essayé de trouver une représentation. Alors, elle n'est pas arithmétiquement juste. Mais chacune des sensibilités se sont représentées dans un exécutif où il sent que sa sensibilité est présente. Et puis surtout, très important, derrière, on a bâti d'abord, la première chose qu'on fait quand c'est de construire un projet de territoire. C'est-à-dire qu'on a un exécutif du coup qui reflète les différentes sensibilités et puis on travaille sur le projet. Et finalement, c'est la plateforme programmatique.
Ça veut dire que vous ne faites pas tout ce que vous voulez, il y a des choses auxquelles vous avez renoncé.
Eh bien, on en discute au départ. Il y a des choses qu'on va plutôt avoir tendance à laisser de côté au profit de ce sur quoi on se met d'accord. Et donc, ensuite, même quand vous êtes avec des gens qui ne partagent pas vos sensibilités, ils se sentent représentés dans un exécutif où ils ont des amis à eux qui sont présents, des gens dans lesquels ils ont confiance. Et on se met d'accord surtout pour mettre ensemble une politique, pour réaliser une politique. Ce qui finalement, si on transpose aujourd'hui, dit, en fait, on devrait aujourd'hui au niveau national commencer par discuter, c'est vrai, de ces plateformes programmatiques, de quoi on a, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, parce que c'est très compliqué de faire tenir ensemble des gens de sensibilités différentes.
Mais vous voyez bien, il y a les lignes rouges qui arrivent, les fameuses lignes rouges au bout de quelques minutes.
Oui, mais tous les pays du monde qui ont des coalitions gouvernementales passent parfois un temps assez important. Nos amis allemands ont passé plusieurs semaines, les Belges ont parfois pris plus d'une année pour arriver à construire ce document, et ensuite ça devient un peu la loi interne, le règlement intérieur de la coalition. Je crois que c'est fondamental, finalement presque aussi cette méthode qu'on doit acclimater dans notre pays aujourd'hui.
Merci Boris Ravignon d'avoir été en direct avec nous, maire LR de Charleville-Mézières. Dans les sujets qui nous occupent aujourd'hui, on en parle dans les communes, on en parle dans les communautés de communes, comment prendre des décisions. Ça peut aussi se faire dans des théâtres, et c'est ce que vous avez tenté, et c'est ce que vous tentez en ce moment, sur scène. Bonjour Élise Châteauret.
Bonjour.
Vous êtes autrice, metteuse en scène d'une pièce qui s'intitule « Nos assemblées », qui va tourner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, partout en France. L'idée, c'est de se demander comment on peut prendre ensemble des décisions de la façon la plus juste possible. Il y a notamment cet exemple de choisir en nombre une pizza à commander pour le dîner et arriver à se mettre d'accord. Comment ça se passe et quel est le but ?
Alors, ça se passe de la façon la plus simple qui soit. Il y a deux acteurs, actrices, Juliette Coulon et Manu Matt, qui sont devant les spectateurices et qui leur proposent de choisir entre trois pizzas. Donc, ils leur décrivent trois pizzas, une Vésuvio au jambon de Parme, une végétarienne et puis une un peu spéciale avec du curry. Et là, on propose à l'assemblée des spectateurs réunis ce soir-là, ce jour-là, on le joue dans des endroits très variables et variés, de voter à main levée pour la pizza de leur choix. Il en sort toujours une pizza majoritaire, donc disons qu'il y a 11 voix pour une des pizzas et 9 voix qui se répartissent entre les deux autres. Et ce choix, on part de l'idée qu'il ne nous satisfait pas complètement, puisqu'il laisse, disons, dans le cas où on est 20, il en laisse 9 sur le côté.
Il y a 9 qui n'ont pas la pizza qu'ils voulaient. Donc il faut trouver une autre manière de choisir.
Voilà, et on interroge la question que ce soit toujours la majorité qui écrase le reste de l'Assemblée. Et on se dit, trouvons mieux. Donc on expérimente le vote à points, où chacun a un nombre, chaque spectateur électeur a un nombre de points à répartir en fonction des trois pizzas. Et en général, le résultat change.
C'est pas la même pizza qui est élue.
Très, très fréquemment, ça change, et même quand ça change pas, le fait qu'on ait donné des points à une pizza qu'on n'aurait pas forcément choisie, parce que par exemple on donne 3 points à la pizza qu'on préfère, mais on en donne aussi 2 à une qu'on préfère un peu moins, de toute façon, on a la sensation de participer davantage, même quand c'est pas notre pizza de cœur qui sort, quoi. Et puis le tout dernier choix, enfin, il y a encore deux modalités, une modalité où on fait ce qu'on appelle un tirage au sort pondéré par le vote, donc on reprend les résultats du premier vote et on met dans une petite calebasse des perles. Donc on en met le nombre, par exemple 11 voix pour celle qui a eu la majorité, 4 pour l'autre, 3 pour l'autre, et on tire au sort. Et ça, c'est une modalité de vote qui a été éprouvée, notamment pour laisser une chance à ce qu'on appelle en démocratie la minorité permanente, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent ni dans un cas, ni dans l'autre, et pour qu'ils aient une chance d'avoir la pizza qu'ils souhaitaient qu'ils soient plébiscités.
Mais ça, Élise Châteauret, choisir une pizza collectivement, c'est de la politique ? Ou c'est une métaphore de la politique ?
Alors c'est un exemple qui nous a été donné dans un livre qui s'appelle « Décider ensemble » de Philippe Urfalino, qui est un des spécialistes de la démocratie aujourd'hui, et qui donne cet exemple-là pour travailler ensemble précisément la question de comment on décide. Parce qu'on se rend bien compte que la manière dont on décide, la forme que prennent nos décisions, elle est extrêmement liée à la question démocratique, et que les modalités de vote notamment, nous ce qu'on a découvert aussi en travaillant ce spectacle, c'est que, par exemple, le vote majoritaire à deux tours qu'on utilise très majoritairement, c'est statistiquement...
C'est celui avec lequel on élit nos députés ?
Exactement, c'est statistiquement celui qui rend le moins hommage à l'opinion réelle des gens.
Un dernier mot, Élise Châteauret, est-ce qu'on termine toujours avec une pizza margarita, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les légumes pour ceux qui n'aiment pas ni les artichauts ni les champignons, on a enlevé toute la viande pour les végétariens, est-ce qu'on arrive toujours au même résultat dans vos assemblées ?
Pas, pas Pas du tout, parce que justement à la fin, on propose une grande palabre, c'est-à-dire une gestion par objection où chacun peut émettre un avis et on ne valide l'ingrédient donné que si tout le monde est d'accord et s'il n'y a pas d'objections qui sont amenées. Ça oblige chacun à se positionner en termes d'objections réellement ou de préférences. Et on se rend compte que la plupart du temps, les gens sont tout à fait capables de renoncer à leurs préférences au nom du bien commun et de l'intérêt général. Et ça, c'est quand même source de grande joie d'abord et puis d'espoir. Et donc nous, on a des pizzas très particulières.
Et très différentes selon les lieux. Chevreuil. Ah, une pizza au chevreuil.
On a eu une pizza au chevreuil, on a eu des pizzas halal, on a eu des pizzas végétariennes avec des légumes de saison du coin. On a eu parce qu'en fait le but d'une bonne discussion où chacun est prêt et a envie de construire quelque chose ensemble, c'est de révéler la singularité de l'assemblée qui est présente, pas et d'arriver à une sorte de consensus mou qui finalement n'apportera rien de bon à personne. Quoi.
Et c'est une expérience que vous pouvez réaliser chez vous également quand il s'agit de décider. Idée de ce qu'on mange. Merci infiniment Élise Châteauré d'avoir été en ligne avec nous. La pièce s'intitule Nos Assemblées. Elle est jouée à Bélabre dans l'Indre le 6 novembre du 24 au 30, département de la Corrèze et au Sylvia Montfort Théâtre à Paris du 2 au 13 décembre. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous avez appelés, qui avez répondu à cet appel aujourd'hui. À vous la parole. La journée se poursuit évidemment sur Inter et notamment ce soir dans le 18-20 autour de Fabienne Sintès.
France Inter. Le 13-14.
C'est une chanson, Frédéric Pommier, on vous retrouve. C'est aujourd'hui la chanteuse de jazz, Didi Bridgewater, qui est avec vous.
Didi Bridgewater qui donnera deux concerts cette semaine. Demain soir, elle sera à Tourcoing, puis mercredi à Nancy. Et c'est de Nina Simone qu'elle a choisi de me parler. Une chanteuse qu'elle a découverte à la fin de l'adolescence.
J'avais 18 ans, j'étais aux États-Unis, j'étais à Flint, Michigan, la ville où j'ai grandi. Et j'allumais la télévision et elle était dans une émission d'un grand homme qui s'appelait Ed Sullivan. Et elle est arrivée pour chanter. Elle était habillée dans une robe longue, magnifique, faite de tissu africain, avec ses cheveux naturels, mais coiffée comme une reine africaine. Et elle s'est mise au piano, mais avec une grâce. Et elle commence à jouer. Elle a chanté une chanson qui s'appelait Four Women. Et là, je dis, mais qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'étais scotchée. J'avais jamais vu une femme noire assumer ce côté africain-américain et qu'elle chantait un morceau et ça a été permis sur des différentes couleurs. Des femmes noires, c'était une chose hallucinante pour moi.
Et ça a provoqué un désir, une envie de faire comme elle?
Yes. Yes.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset.
Cette chanson, Frédéric, a pour titre Mississippi Goddam.
Une chanson dans laquelle Nina Simone dénonce le racisme de la société américaine. Didi Bridgewater la reprend d'ailleurs elle-même en concert depuis quelques temps, en l'occurrence depuis le retour de Donald Trump au pouvoir.
Elle avait écrit cette chanson en parlant de toutes les choses qui se passaient dans les années 60, au début des années 60, mais les choses qui pour nous était très difficile. Nous, quand je dis nous, je parle des gens noirs américains. Et en fait, j'ai choisi cette chanson parce que pour moi, c'est une alerte sur les choses qui se passent aujourd'hui. Et le fait qu'on est en train de retourner vers ça.
Cette chanson, elle a écrite après un attentat raciste.
Yes, dans une église noire dans le Mississippi. Yes. Et donc, je sais aujourd'hui, par cette chanson, d'avertir aux gens, attention, hein, attention, on est en train de revivre ça. On va toutes et tous perdre la liberté, la démocratie, tout ça.
And I loved him because he believed it. He lived by it.
Vous-même, vous avez beaucoup subi le racisme?
Bien sûr, beaucoup. Ça arrive toujours. J'ai vécu une petite histoire l'été dernier. Je sors d'une toilette dans l'aéroport de... C'était soit Milano ou Verona, je ne sais pas. Et il y avait une file d'attente. Il y avait une jeune femme. J'ouvre la porte, je sors. Elle se met de côté. Une femme blanche. Elle a refusé d'entrer dans la cabine parce qu'elle n'a pas voulu s'asseoir sur une toilette d'une femme noire. Où une femme noire a été assise. Non, ça existe toujours. Keep on saying, go slow.
Donc cette chanson pour vous de Nina Simone, c'est comme une piqûre de rappel.
Yes.
Et vous vous sentez investi du devoir de porter cette parole-là aujourd'hui.
Yes, I feel that. Oui. Et à la fin de cette chanson, je fais la montée de bras en proteste comme les athlètes ont fait pour les Olympiques dans les années 60.
Le bras levé.
Yes. Donc c'est très important, cette chanson, pour moi, aujourd'hui. Just give me my equality, 'cause everybody knows about Mississippi.
Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi Goddam. Nina Simone, c'était donc Frédéric, le choix de Didi Bridgewater.
Didi Bridgewater qui sera en concert demain à Tourcoing et mercredi à Nancy.
Merci Frédéric. Le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan à suivre.